Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 13h.
Sur 6-6, c'est Radio Campus.
Telo vila li mia maya, telo ani pugade. Telo vi te uve maya, telo vi wa entre. Na parot kona tout histoire, ni ke sa coule.
Il est 13h, passé de 1 minute sur le fuseau horaire de Radio Campus, et c'est samedi, le jour de traverse, une émission de Françoise Objoie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le 106.6 de la bande FM. Au menu cette semaine, interculturel, société et théâtre. Alors aujourd'hui, plus que jamais, après cette horrible nuit d'attentats meurtriers à Paris, nous parlerons de culture, cette culture que des obscurantistes voudraient faire disparaître de la surface du globe. La France a été visée hier comme jamais, mais d'en traverse, aujourd'hui, il sera question, comme d'habitude, de culture dans une France métissée qui le restera. Je reçois donc dans le studio de Radio Campus, qui est plein comme un œuf. Il y en a qui sont... Ah non, ils se sont assis quand même, mais tout à l'heure, il y en avait qui étaient debout. Alors donc, il y a Isabelle Demeyer, Arnaud Vresch, Ali Moala, Leïd Sang, Madame Moussazadeh, Rossella Piccino, Graham Roberts et Ken Sujita. J'ai hésité un instant, parce qu'on devrait avoir Yuri et Cecilia, mais on ne les a pas encore vus arriver. Alors Isabelle Demeyer est attachée de presse au Théâtre du Nord. Nous évoquons avec elle Manque et Monet, la dernière création de Carole Thibault. Une pièce qui colle à l'actualité et met en scène une société imaginaire dans laquelle un mur sépare les riches et les pauvres et où l'endettement, source de violence, est la seule vraie démocratie prônée par ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent. Isabelle Demeyer, bonjour.
Bonjour Françoise.
Jeune comédien issu de la promotion 4 de l'École du Nord 2012-2015, Arnaud Vresch a fondé la compagnie « Il faut toujours finir ce qu'on a commencé » avec Jeanne Lazare. Ensemble, ils travaillent en ce moment sur des textes de Jean-Luc Lagarce et Hervé Guibert. Arnaud Vresch est le jeune directeur et le fils dans Manque et Monet de Carole Thibault, à voir jusqu'au 22 novembre à l'Idéal à Tourcoing. Arnaud Vresch, bonjour.
Bonjour.
Ali Moala et Leïd Sang sont étudiants cette année à Lille. Ils viennent de Syrie et de Chine et ils ont participé l'été dernier au sein de l'International Academy à un atelier radio sur l'intégration professionnelle des étrangers en France. Madame Moussazadeh, Rossella Piccino, Graham Roberts et Ken Sujita viennent d'Iran, d'Italie, de Grande-Bretagne ou du Japon et vivent aujourd'hui à Lille. Ils ont partagé avec enthousiasme leurs expériences avec les étudiants. Ils sont en direct dans Traverse pour un exercice live où il sera question d'ici et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Ah voilà, avec enthousiasme aussi, merci. Voilà, vous savez maintenant presque tout sur l'heure que nous allons passer ensemble. Juste après la musique, rendez-vous avec Manque et Monet.
We'll be right back.
Sur le 106.6 de la bande FM jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie d'Isabelle de Meyer, attachée de presse au Théâtre du Nord, pour Manque et Monnaie, la dernière création de Carole Thibault, dans laquelle Arnaud Vrèche joue le rôle du jeune directeur et du fils dans Manque et Monnaie. Alors peut-être que pour commencer, j'avais envie, moi, de commencer par des textes, pour vous donner un peu le ton de cette pièce. Et puis, comme on a la chance d'avoir un des comédiens de cette pièce, on va peut-être, avant toute chose, demander à Arnaud de nous mettre un peu dans le bain. Il se concentre et c'est quand tu veux.
Mesdames, messieurs, chers partenaires, chères collaboratrices et chers collaborateurs, mes chers amis, Georges, Françoise, chère Françoise, bonsoir et bienvenue au Théâtre du Nord, bienvenue à l'Idéal, ce magnifique théâtre de Tourcoing. Qu'il me soit permis, avant de commencer, de remercier ici le Théâtre du Nord, particulièrement son directeur et toute sa sympathique équipe pour l'accueil de nos festivités. Une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que désormais, établissement public et entreprise privée marchent la main dans la main pour construire ensemble une société meilleure. Ensemble, on est plus fort. Mes amis, je suis si heureux de vous retrouver ce soir pour fêter ce qui nous rassemble, la naissance de notre maison. 20 ans. Ah, le bel âge, plein de promesses, de désirs, d'énergie, d'enthousiasme et, osons le mot, de joie. Oui, je dis osons ce mot, car c'est un beau mot que ce mot, joie. Et pourquoi nous en priverions-nous ? Pourquoi nous maquillerions-nous des pâleurs de l'amorosité comme une mode pour ados, mal dans leur peau, sommes-nous ? Mal dans notre peau ? Suis-je mal dans ma peau ? Bon, je vous entends d'ici, moi, c'est différent. Je suis le directeur. Je devrais d'autant plus me taire, faire profil bas. Mais justement, pourquoi devrais-je le faire ? J'ose dire, je vais bien. J'ose l'affirmer haut et fort. Assez de ces airs maussades. Ne nous laissons pas contaminer par la morosité ambiante. Que dis-je morosité ? Dépression. Mes amis, soyons forts et vivants. Approprions-nous la joie. Elle est à nous, comme le sang rouge qui coule dans nos veines. Elle est à nous, comme l'air que nous respirons, le soleil et le ciel au-dessus de nos têtes. Et nous n'y aurions pas droit ? Et nous devrions courber la tête ? Avoir honte, donc, de travailler, d'être heureux, de vivre dans une société développée, civilisée et riche ? Oui, disons le mot et cessons d'avoir honte. Une société riche, pas seulement d'argent, mais de fraternité, de solidarité, de projets partagés, en un mot, de richesse humaine. Parce que ne nous y trompons pas, la richesse est avant tout humaine. La richesse n'est rien sans l'humain. Richesse sans humanité n'est que ruine de l'âme. Vous me pardonnerez ce petit signe à mon cher Rabelais, vous savez combien je l'aime, mais on pourrait ajouter, toujours à la manière de ce grand esprit du bon vivre et de la joie, conscience sans richesse n'est que ruine de l'âme, ou plus simplement, conscience sans richesse n'est que ruine.
Merci Arnaud. Ben, c'était pas facile finalement en introduction, ce texte qui a des échos malgré tout aujourd'hui qu'il n'avait pas il y a deux jours quand je l'ai vu, que je vous ai vu sur scène. La solidarité, la richesse humaine, c'est effectivement tout à fait ce qu'il nous faut pour l'instant. Alors Isabelle de Meyer, avant toute chose, donc suite aux attentats qu'on a évoqués tout à l'heure, les attentats de Paris la nuit dernière, est-ce que la représentation de ce soir aura lieu ?
Alors, on attend des nouvelles du préfet à ce sujet. Voilà, je n'ai pas de réponse pour le moment. Il est fort probable qu'on ne joue pas, malheureusement. Je sais que Martine Aubry a annulé d'ores et déjà tout ce qui était prévu ce soir à Lille, au Grand Sud, dans la journée à l'espace Saint-Sauveur, à la gare Saint-Sauveur. Voilà, nous, on attend des nouvelles du préfet, aussi de la mairie de Tourcoing. Voilà, je n'ai pas eu directement Carole. Thibault, la metteur en scène et auteur du spectacle, pour avoir son avis. Mais après, bon, ça nous touche terriblement, à la fois par cette fermeture, mais aussi parce que ça a touché une salle de spectacle. Évidemment, le Bataclan, ça aurait pu taper dans un théâtre. Voilà, ça touche nos métiers, ça touche les comédiens, ça touche tout ce qu'on prépare à l'avance. C'est l'ouverture du Next hier soir. C'est aussi ce soir la rose des vents, on ne sait pas non plus si on va jouer. Enfin voilà, c'est terrible pour tous ces métiers d'art et de culture qui sont notre cœur, le cœur de métier, enfin de personnes, de tous les gens que ça met en marche pour passer des soirées agréables. Voilà.
Ok Isabelle, alors donc il y a un atelier d'écriture avec Carole Thibault, lui il est maintenu.
Oui, alors je remplace Carole Thibault au pied levé ce midi parce que Carole donc anime depuis hier un atelier d'écriture sur l'un des thèmes qui traverse son sujet, Manquer Monnaie, qui est le principe de l'héritage, de quoi héritons-nous, puisque vous avez entendu... tout à l'heure, donc Arnaud Vrèche qui commençait avec ce grand discours du jeune directeur de la Biwi Bank qui fête ses 20 ans. Et donc il y a une histoire d'héritage dans cette Biwi Bank. Le jeune directeur va hériter lors de cette soirée d'un poste très important qui devait normalement aller à la fille du directeur. Et voilà, ça traverse l'héritage, est un des thèmes qui traverse le spectacle, qui raconte, pour aller vite, une société imaginaire séparée par un mur entre le monde des riches et le monde des pauvres.
Et d'ailleurs, comment Carole Thibault a eu l'idée du sujet de cette pièce ?
Alors, elle était depuis longtemps très, très affectée par l'économie, par tout ce qui se passe aujourd'hui, par les problèmes de surendettement, par ce qui se passe dans notre monde, ce qu'on vit tous les jours au quotidien dans nos vies. Et puis, elle a eu l'occasion de passer une journée sur le plateau d'un call center d'une société de crédit, où là, elle a été un peu assommée par ce qu'elle a vu et entendu. D'une part, les gens qui appellent tout simplement pour demander de l'argent, tout simplement pour les aider à continuer à vivre normalement, pas pour s'acheter une grosse voiture. Et puis aussi les refus, puisqu'elle était au service du contentieux, les refus de dette, d'effacement de dette. Et c'est aussi un des thèmes de la pièce, puisque... Il y a un jour, dans cette société imaginaire, il y a un des chômeurs surendettés du monde des pauvres qui va traverser le mur pour aller demander l'effacement de sa dette. Ce qui l'a aussi beaucoup touché, c'est de voir comment, parmi le personnel de la banque, il y avait une sorte de formation... Qui faisait que les gens qui répondaient au téléphone étaient absolument dépourvus d'humanité et se trouvaient dans une façon, dans un fonctionnement de, étaient persuadées de faire bien leur métier, de faire presque du social aussi, c'est des mots qu'elles ont entendus, alors qu'ils donnaient des réponses à des gens qui étaient au bout du rouleau, des réponses qui étaient impossibles à entendre.
Alors Arnaud Vrèche, vous êtes sorti de l'École du Nord en juin 2015, on l'a dit, vous voilà déjà revenu sur la scène du Théâtre du Nord. Comment s'est passée cette audition avec Carole Thibault ?
Carole est venue à la fin de l'année de la saison dernière à l'école faire des auditions. Elle a fait des auditions un peu partout pour trouver l'acteur qui jouerait le rôle du jeune directeur et du fils dans sa pièce. J'ai passé l'audition. Elle m'a rappelé une semaine après en me disant qu'elle voulait bien que je fasse partie de la distribution et j'ai accepté.
Évidemment, c'était une sacrée opportunité. Alors, j'ai l'impression que c'est votre premier rôle en tant que comédien professionnel et que vous bénéficiez d'un nouveau dispositif d'insertion mis en place par l'École du Nord.
Oui.
Alors, ça consiste en quoi, ce dispositif ?
Le dispositif d'insertion, ça consiste, c'est surtout bénéfique pour les employeurs, c'est-à-dire que c'est une aide, surtout financière, qui permet à des employeurs d'employer des jeunes comédiens sortant d'école. C'est l'exemple du JTN, du Jeune Théâtre National aussi, qui fait que... les acteurs sont rémunérés par les fonds de cette insertion, de cette aide à l'insertion.
Donc c'est une incitation à l'emploi, en gros.
C'est une incitation à l'emploi et ça facilite l'emploi pour nous, pour les jeunes acteurs. On trouve plus facilement de travail avec cette aide précieuse.
Tout à fait. Quelle a été votre première réaction à la lecture du texte de Carole Thibault ?
La première lecture, c'était pas exactement le texte qu'on joue aujourd'hui, parce que évidemment, elle a écrit en fonction des répétitions. On a commencé le 15 août à Paris à répéter cette pièce, et au fil des répétitions, elle a changé le texte parce qu'on se rend compte que les mots sur le papier, eh bien, c'est pas la même chose que les mots dits comme ça. Par des personnes, donc il faut changer, il faut retravailler, et on a retravaillé ensemble et on arrive à quelque chose, à un objet qui est encore pas fini, parce que ça va encore retravailler avec les spectateurs, parce que ça aussi c'est une nouvelle étape.
Oui, tout à fait. Le soir de la première, j'ai remarqué dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui riaient, par exemple, ou qui manifestait de manière plutôt humoristique une réaction à ce que vous disiez. Et j'imagine que ça vous fait bouger en disant, tiens, là, le public a réagi.
Oui, évidemment. Et hier soir, c'était encore différent. Hier soir, les gens ont beaucoup plus réagi que la première, par exemple. Et pour nous, c'est différent. On perçoit le texte différemment et on se rend compte de choses avec le public, avec cet autre partenaire qui est le public. Et aujourd'hui, depuis hier soir, évidemment, le texte va résonner encore différemment et ça va être différent, assez compliqué de faire passer ce texte, parce que c'est vrai que ça résonne et on peut pas ne pas penser à ça en écoutant le texte, évidemment.
Tout à fait, parce qu'en écoutant le texte, on se dit que ce capitalisme brutal et violent... son issue, en quelque sorte, c'est une vraie violence et ça peut déboucher sur une guerre du capitalisme mondial.
Oui, tout à fait.
Et ce petit... Alors, je ne vais pas raconter tout, parce que sinon, il y a quand même un suspense. Hein. Il y a un vrai suspense dans la pièce. Entre le début et la fin, il y a une évolution. Il y a aussi une violence qui s'insinue petit à petit, qui n'est pas présente au tout début, quand on vous présentait l'anniversaire joyeusement.
Et la pièce commence par quelque chose de très réaliste, enfin ça se veut très réaliste, et ça se transforme peu à peu, une sorte de conte un peu onérique, et on va dans un autre monde, et c'est ce qu'on essaie de faire passer avec le texte, et c'est ce mur dont vous parlez tout à l'heure qui tombe petit à petit, et on arrive dans un autre théâtre, c'est ce qu'on veut faire passer. Après, est-ce que les gens voient ça, c'est toute autre chose.
En tout cas, ce qu'on remarque, c'est tout d'un coup la vidéo qui prend une grande place. enfin, l'image, la lumière. Et on, là, on sent quand même qu'on change de monde entre le, je dirais, l'entreprise avec sa lumière crue et puis quand on s'en va vers autre chose. Mais alors, comment vous avez abordé ce double rôle, donc directeur de la Biwi Bank et puis petit malfrat de banlieue?
Mais disons que c'est un double rôle qui n'en est finalement pas un. C'est comme si c'était la même figure, la même personne qui, la première, est née dans un monde riche, dans un monde des riches, et la deuxième, c'est comme si c'était la même personne qui avait mal tourné, quoi. Mais finalement, c'est pas deux personnes différentes, finalement. C'est comme si, voilà, une personne est née, a eu la chance de naître dans un monde, et c'est pour ça que ça raconte aussi le transfuge de classe, parce que c'est la personne qui, le jeune directeur, vient du monde des pauvres, et il est comme ça mis dans ce monde des riches, et on le rappelle tout le temps, on lui rappelle tout le temps ses origines, on lui rappelle tout le temps qu'il ne sera jamais, intégré dans ce monde, dans ce petit monde des riches. On lui rappellera toujours, malgré tous ses efforts, malgré ses compétences, ses études, tous ses diplômes qu'il a, et ben on lui rappellera toujours que non, il fera jamais partie de ce monde-là, parce qu'il est né derrière le mur, donc de l'autre côté de la frontière.
Et ça, c'est une terrible réalité de la société d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait, exactement.
On ne passe pas les murs, en tout cas. Mais ce mur est invisible, mais il est là. Isabelle de Meyer, Carole Thibault, pour écrire ce texte, s'est beaucoup inspirée de l'histoire du capitalisme familial. Et je me suis dit, parce qu'on le voit fortement dans la pièce, et je me suis dit que dans le Nord, elle avait de quoi faire.
Oui, oui, bien sûr, sans nommer, c'est vrai qu'elle s'est inspirée. Elle est revenue, c'est-à-dire qu'au départ, elle était partie sur l'écriture de quelque chose de très réaliste, avec un call center, avec l'anniversaire de la Biwi Bank, etc. Et puis, elle s'est rendue compte au fur et à mesure qu'elle écrivait que, en tant qu'auteur, elle n'arrivait pas à trouver un souffle là-dedans, parce que c'était tellement terrible et triste. Et donc, elle a relu les grands auteurs du 19e siècle et du début 20e, Hugo, Zola, qui ont raconté, Mirbeau aussi, qui ont raconté comment ce capitalisme naissant, et qui ont raconté comment des familles ont construit des empires sur le dos des ouvriers ou des employés. Et donc elle est partie là-dedans, et si on analyse bien l'écriture de Manquet Monet, il y a une trame qui ressemble beaucoup à Jean Valjean, au Misérable, et à quelqu'un qui vient demander de l'aide, qui va passer d'un monde à l'autre pour essayer de retrouver. Elle a fait ça parce qu'elle y a retrouvé une humanité qui pour elle avait du sens dans son écriture, sinon elle s'y retrouvait pas en tant qu'artiste.
Alors la morale, qui n'en est pas une, pourrait être en tout cas le constat que tout le monde achète tout le monde. C'est une phrase de la pièce. Et c'est assez terrible.
Et oui.
Arnaud Vrèche, en tant que jeune comédien, et puis jeune tout court dans notre société, le constat que tout le monde achète tout le monde, ça vous donne envie de faire quoi?
Ben c'est une réalité aussi. C'est une réalité, on achète, ça passe tout le temps par ça, oui. Moi, en tant que comédien, je peux pas travailler sans être indemnisé. Je travaille, c'est mon travail, donc on m'achète et finalement, mais ça c'est pas impur, il y a pas une connotation négative d'acheter, c'est pas ça peut être beau aussi d'acheter, voilà, ça dépend comment c'est fait, ça dépend avec qui c'est fait, voilà, mais c'est vrai que en tout cas c'est un peu omniprésent,
oui, c'est un monde auquel on ne peut pas échapper, en fait.
Tout à fait, je crois qu'il faut faire avec, et ça peut être très bien comme ça, ça peut être très bien ainsi.
Quels sont vos arguments à tous les deux pour donner envie aux auditeurs d'aller voir Manquet Monet, Isabelle?
C'est pas cher.
J'espère vraiment, là je vous parle, j'avoue que j'ai mon je me sens un peu ailleurs et voilà, un peu triste. J'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à jouer. Peut-être pas ce soir, mais que ça reprendra. On joue normalement jusqu'au 22. C'est quand même une création. On vient de démarrer. Il y a une tournée derrière. J'espère aussi que la tournée pourra se faire. Ça court jusqu'en mars à Lyon. Voilà, donc je suis un petit peu... je me sens un peu en dehors tout à coup de, du spectacle quand je vois que ça, ce que ça représentait comme les décors,
comme travail
chez nous, comme travail, comme voilà, l'écriture, les comédiens, enfin tout ce que porte une création, hein, comme toute autre création, hein, l'opéra. Enfin, voilà, je ne parle pas que du théâtre du Nord. Voilà, c'est, je voulais revenir peut-être sur, sur la, la scénographie. Tout à l'heure, Arnaud a dit qu'il y avait un moment, en effet, on part sur quelque chose de très réaliste, hein, donc dans, avec cet anniversaire, et puis on, tout à coup, on glisse vers une fable, une sorte de fiction voilà, onirique. Et il y a une très belle scénographie qui se met en place, qui est signée Antoine Franchet, avec des dessins, enfin des projections sur ce mur qui sont vraiment très très belles et qui emportent le spectateur, je pense. Voilà,
oui, ça fait presque comme une installation d'art contemporain, voilà. En fait, avec ces lumières qui...
Voilà, de manière très différente, puisqu'à un moment, on ne va pas tout raconter, mais il y a aussi un incendie, etc. Il y a des, enfin, je trouve que la scéno est vraiment très très belle.
Et puis c'est plein de drames, en tout cas.
Oui.
Alors, donc Isabelle Demeyer et Arnaud Vrech, merci. Montkémoné de Carole Thibault, c'est jusqu'au 22 novembre à l'Idéal à Tourcoing. Bon, donc pour ce soir, se renseigner impérativement.
On va mettre dès qu'on a la nouvelle sur le site.
Est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone ?
03 20 14 24 24, on a ouvert à 12h30. Voilà, jusque 18h30. On va rapidement mettre la réponse du préfet sur le site, savoir quelle décision est prise. Mais là, j'en avais pas avant de rentrer dans ce studio.
Très bien. Donc, soit le téléphone, soit le site, qui est encore plus sûr.
www.théâtredunord.fr.
Très bien. Eh bien, juste après la musique, rendez-vous avec les participants à l'atelier radio de l'International Academy sur le thème de l'intégration professionnelle des étrangers en France. Vous êtes bien sur le 106 de Radio Campus et ses traverses jusqu'à 14h. Alors, dans le studio, on se tient chaud en ce moment, car on est pas mal. Il y a Ali Moala, Led Song, étudiant cette année à Lille. Ils viennent de Syrie et de Chine et ils ont participé l'été dernier au sein de l'International Academy à un atelier radio sur l'intégration professionnelle des étrangers en France. Pour répondre à leurs questions, il y a Madame Moussazadeh, Rossella Piccino, Graham Roberts et Ken Sugita qui viennent d'Iran, d'Italie, de Grande-Bretagne ou du Japon et qui vivent aujourd'hui à Lille. Ils ont accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure avec enthousiasme, de partager leurs expériences avec les étudiants. Alors on va commencer peut-être par une courte présentation du côté des intervieweurs, qui je rappelle devait être 4, mais on en a perdu 2 en route, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Mais on a les 2 meilleurs bien sûr, on a Lei et on a Ali. Alors peut-être que Ali se présente.
Oui, bonjour.
Alors,
à tous.
Proche du métro, hein. Du micro. Je pensais que Cécilia avait raté un métro.
Bonjour à tous, je m'appelle Ali Moala.
Mais non, voilà, c'est bon, rapproche-toi du micro.
Je m'appelle Ali Moala, je viens de Syrie, j'ai 25 ans. Je suis un étudiant à Télécom Lille, une grande école de télécom à Lille. C'est ma première année en France et à Lille. Et je suis ici aujourd'hui pour connaître comment on peut. Nous, les étudiants étrangers, peuvent intégrer dans le système universitaire en France.
Très bien. Alors,
j'ai 2 questions.
Oui, alors attends, on va continuer la présentation de Lei et qui va se rapprocher du micro parce que finalement, Ali n'était pas assez proche. Hein. Donc, il faut être très proche du micro.
Oui, bonjour.
Encore plus proche, qu'on entende bien parce que là, moi, je suis à fond et voilà. Vas-y.
Bonjour. Ah, bonjour, je suis Lei, je viens de Chine, je suis étudiant de l'école de mines de Douai, près de Lille. Et je suis arrivé en France le juillet et j'ai étudié à Lille International Academy cet été pour améliorer le français. Et je participais au programme de Françoise. Maintenant, je vais interviewer quelques étrangers qui travaillent en France. Et je pense que c'est un thème très intéressant. Oui.
En tout cas, je peux témoigner que vous avez fait beaucoup de progrès depuis juillet en français. Alors, du côté des interviewés, peut-être, une courte présentation du même genre. On va commencer par Madad, qui est juste là.
Bonjour, je m'appelle Madad Moussazadeh, j'ai 56 ans. Donc, je suis arrivé en France en 78 même. Un mois d'octobre 78, ça fait bien longtemps. Voilà, pour faire mes études, et par la suite, je suis resté. Aujourd'hui, je suis professeur d'enseignement artistique, voilà, en musique.
Très bien.
Donc, j'ai été interviewé par Lei, on a eu des échanges de mails et de questionnaires, voilà.
Et vous vous êtes rencontrés.
Absolument, on a mangé ensemble, c'était très sympathique.
Parfait. Alors, Ken, une petite présentation.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Ken Sugita. Normalement, c'est Sugita et pas Sugita.
Ah, Sugita. Désolé.
Bon, je suis français maintenant, donc je peux rien dire. voilà, je suis japonais d'origine. J'ai fait mes études. J'ai fini mes études musicales à Boston, au New England Conservatory of Music. Je suis violoniste de profession. Et je travaille. J'ai le grand honneur et le plaisir de travailler à l'Orchestre National de Lille. Depuis 1987, je suis arrivé en France en 82, en octobre, et j'ai dit mon âge.
Non, mais chacun fait ce qu'il veut.
Voilà, bon, bah écoutez, j'ai 58 ans, et je suis arrivé en France plutôt parce que j'ai rencontré une Française lors de mes études, et il fallait faire un choix entre les États-Unis. Excusez-moi. Où j'étais encore étudiant et sous visa d'étudiant, ou de venir ici en France. Et donc j'ai décidé de faire ça. Et maintenant, ben, on est mariés, on a 3 enfants et même depuis un mois, je suis grand-père. Voilà.
Voilà, donc effectivement, vous n'avez pas regretté la France. Alors Graham.
Oui, bonjour Françoise. J'ai un parcours beaucoup moins intéressant que mes deux camarades.
Comment?
Et puis d'ailleurs, si j'avais su que tu allais nous poser cette question, j'aurais présenté un petit texte. Parce que justement, ça rejoint ce que disait Arnaud Vresch tout à l'heure. Lorsqu'on est étranger, lorsqu'on s'expatrie, je trouve qu'on est étiqueté assez vite d'ailleurs. Et bon, je reviendrai tout à l'heure parce que je sais que je vois que tu me fais des yeux pour que
aller
je
vite.
Me présente. Voilà, donc je vais aller vite. Je suis de Liverpool, je suis universitaire. Je suis à Lille depuis 2003. Voilà, et les week-ends, je fais de la plongée. Voilà,
voilà une présentation rapide et efficace. On sait là.
Je suis Rossella Piccino, je viens d'Italie. Je suis arrivée en France pour un master en cinéma et art numérique que j'ai fait au Frénois de 2009 à 2011. Et après, je suis partie de France. J'ai voyagé pendant un an, mais la France m'a choisie, je pense. Donc, elle m'a rappelé plusieurs fois. Et au fur et à mesure de revenir, la vie est faite des circonstances. Je me suis fait des amis très chers et au final, petit à petit, peut-être que je suis en train de m'installer à Lille.
Peut-être, parce que quand on voit tous vos voyages partout, on se demande bien où Rossella habite. Alors, on va passer aux questions. Alors, bien sûr, Leï et Ali ont préparé des questions, mais ces questions, elles s'adressent aussi bien aux gens que vous avez rencontrés avant l'émission que à tous ceux que vous n'avez pas rencontrés et qui sont aussi là. Alors, Leï, peut-être, tu commences par ta question et tu te rapproches du micro.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui. Monsieur, vous habitez ici en France depuis 37 ans. Et je pense que c'est une très longue période. Pourriez-vous dire, de manière générale, quels ont été les principaux difficultés auxquelles vous avez confronté et comment savez-vous surmonter?
Alors, cette question s'adresse à Madad d'abord.
Oui, la principale difficulté, comment je peux dire, principale peut-être ou plusieurs difficultés. Je ne peux pas dire que la principale difficulté fut la langue française parce que je parlais avant de venir en France. Mais c'est vrai que c'est un changement de vie. En fait, c'est un changement de vie, un changement de culture, changement de façon de penser, de procéder face aux difficultés, face à la vie en général, voilà. Donc, c'était ça qu'il fallait, il fallait que je m'adapte vraiment à ça, à ces difficultés-là. C'était pas vraiment la langue, mais c'est vraiment le point de vue. Voilà, je peux dire que la principale difficulté, c'était le point de vue en France, en Europe, dans la civilisation occidentale et orientale, on n'a pas les mêmes points de vue vis-à-vis des événements, des choses, de la vie. Voilà, c'est ça qui était vraiment assez difficile pour moi, en tout cas, pour m'approprier.
Alors, cette même question, je pense, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés, on peut la poser à Ken, par exemple, sous Gita. Ça y est, j'ai appris quelque chose. Alors, Ken.
Moi, je suis, contrairement à mon voisin, moi, je ne connaissais pas vraiment le français depuis quand je suis arrivé. J'avoue que même hier, on m'a encore corrigé l'article devant les machins et puis les conjugaisons. Donc ça, je crois que jusque ma dernière souffle, la langue restera quand même une barrière intellectuelle, en tout cas, parce que bon, je sais pas si dans ma tête je reste japonais ou américain. Enfin, après, c'est vrai que la manière que les mœurs ici en France, c'est vraiment complètement quelque chose de différent que ce qu'on peut rencontrer aux États-Unis ou au Japon. Et pour moi, qui suis fondamentalement oriental, le fait de pouvoir et de devoir s'exprimer a été vraiment une chose qui était très très il fallait que je me fasse violence pour et ça a pris beaucoup de temps et je peux remercier un peu quand même cette culture qui est ouverte, qui a cette facilité d'exprimer, la liberté d'expression et donc en fait cette difficulté peut être une voie de libération et de d'épanouissement en fait.
Cette liberté, vous l'avez appréciée, Graham?
Oui, moi je rejoindrai Ken sur un point, c'est-à-dire que on parle souvent des difficultés qu'on ressent lorsqu'on s'expatrie, mais il y a aussi que ça nous facilite les choses, je trouve. C'est-à-dire que le fait d'être étranger, ça nous déresponsabilise quelque part. C'est-à-dire que moi, je sais, enfin, je me parle, ce que je dis ne n'engage qu'en moi, hein, mais j'ai osé faire des choses en France que j'aurais jamais osé faire chez moi. Enfin, c'est-à-dire chez moi. Je suis en France, c'est chez moi la France. Mais à Liverpool. J'ai lancé un club théâtre au lycée où j'étais assistant d'anglais. Je suis devenu initiateur de plongée. Des choses que j'aurais jamais osé faire en Angleterre, je pense. Et c'est là où je voudrais rejoindre ce que disait Arnaud Vresch tout à l'heure. On est toujours étiqueté étranger. Et moi, j'ai des comportements des fois où je bois. Si j'ai un collègue qui me voit boire un thé le matin, il va me dire: ah oui, tu prends pas de café, t'es anglais. Ce qui me mettait hors de moi au début, mais maintenant, bon, c'est pas grave.
Bon, moi, je signale que je bois du thé le matin, que je ne suis pas anglaise.
Ouais, ouais, ouais. Ah bon? Tiens, moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'insisterai sur deux petits points, parce que pour moi. C'est peut-être parce que je viens d'un pays avoisinant, peut-être parce que j'ai fait des études de langue à la fac, peut-être parce que lorsque je suis venu en France en 2003, j'étais déjà marié à une Française. Bon, depuis, on a divorcé, j'ai épousé une autre Française. Pour moi, la langue n'était pas une barrière, la culture n'était pas une barrière. On en parlait tout à l'heure en venant au studio. Pour moi, je ne vois de moins en moins de différences culturelles entre Lille et Liverpool. Voilà. Je me sens vraiment chez moi. Mais il y a deux points. D'abord, la culture populaire, les références à la culture populaire, les chansons de, je ne sais plus comment ça, Claude François, les chansons de Claude François ou les films comme Les Tontons Flingueurs, par exemple. Il m'a fallu très très longtemps pour assimiler ces références culturelles et savoir de quoi les gens parlaient et à quoi les gens faisaient allusion autour de la table. Un samedi soir par exemple, parce que ce sont précisément ces choses-là qu'on n'apprend pas à la fac. On apprend Zola, Hugo et Molière, Laurence Asio,
mais pas
Claude François, malheureusement. Si j'étais prof de français en Angleterre, c'est ce que j'enseigne en premier d'ailleurs. Et la deuxième chose, parce que je fais vite, hein, je sais que je suis assez prolixe, la deuxième chose, ce sont les acronymes. Les acronymes, parce que les gens utilisent les acronymes sans s'en rendre compte à longueur de journée, à Liverpool comme à Lille. Hein. Mais il y a des acronymes, enfin il y a plein d'acronymes et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Encore aujourd'hui, je bute sur les acronymes, je dis bah, ça veut dire quoi ça, voilà. Mais des fois, je ne sais pas si je peux le dire, mais des fois ça donne des choses assez cocasses. PMT par exemple en plongée en France, PMT ça veut dire pâle masque tuba, ça veut dire que tu restes en surface, tu t'équipes pas, tu restes en pâle masque tuba, voilà. Alors PMT en anglais ça n'a pas du tout le même sens du tout.
Bon, je vais poser, est-ce que je pose la question du sens de PMT,
ouais,
en anglais?
Bah, PMT c'est pre-menstrual tension, c'est la tension prémenstruelle chez une femme, voilà.
Ah oui, effectivement.
Donc,
c'est
ça
pas...
a rien à voir, il mais peut... alors vraiment rien à voir, voilà.
Il peut y avoir quelques confusions, ah, bah, voilà. Assez rigolotes. Alors, Rossella, cette question de l'adaptabilité, des difficultés.
Je pense d'avoir un grand privilège en étant italienne, parce que tout le monde me dit que mon accent est charmant, que c'est magnifique. Donc, au final, je reste en France parce que j'ai un atout en plus par rapport à l'Italie, où je serais...
Oui, tout le monde a le même accent en Italie.
Exactement.
Enfin, pas tout à fait.
Donc, mon italianité, à mon avis, est très bien perçue. Après, c'est vrai que chacun a son bagage personnel, donc probablement le fait que je suis très extrovertie, très solaire, pétillante et que je casse les murs et les barrières.
Et artiste.
Et artiste, bien évidemment.
Donc, j'ai ouvert plein de portes qui étaient au début fermées par une certaine diffidence que parfois les Français ont, surtout dans des milieux culturels un peu snob. Donc, mon caractère, ma personnalité fait que, voilà, j'ai eu un accès facile à la socialité, disons, et au monde du travail culturel. Je me demande qu'est-ce que ça serait été ma vie si j'étais plutôt issue des migrations postcoloniales, si je venais d'un pays du Maghreb, par exemple, ou d'Afrique noire.
Ah, c'est autre chose. Oui.
Ça serait été autre chose. Donc, oui, je suis une étrangère privilégiée parce que je viens d'un pays voisin c'est les cousins pour nous, les Français. Donc, il n'y a pas un grand choc culturel et on est très bien perçus. Et...
Voilà. Et en même temps, vous êtes un peu comme Graham, vous êtes heureuse de cette situation. Vous aimez être justement décalé, être l'étranger en fait.
Oui, oui, j'aime bien être étrangère parce que c'est une situation d'étranger privilégié.
Ah,
j'ai jamais été discriminée ici en France autant qu'étrangère. J'ai toujours été perçue, au moins ma sensation, c'est que être étrangère ici, italienne, artiste, c'était quelqu'un que les gens aimaient bien, que j'étais là tous les temps, un dîner, toutes les situations conviviales. Jamais j'ai entendu une discrimination. Je me demande comment ça serait été être un étranger discriminé en France.
Bah, finalement, on peut, avant que Ali pose sa question, on peut peut-être demander à Ali et Lay comment, après ces quelques mois en France, ils perçoivent notre manière de les accueillir. Ali, peut-être ? Est toujours proche du micro, hein, Ali.
Mais j'ai pas compris. Je suis désolé. Pardon.
Alors, en fait, est-ce que tu, enfin, comment tu perçois là, comment tu perçois l'accueil des Français par rapport à toi?
Oui, quand je suis arrivé en France l'été dernier. Et particulièrement, mon problème et mes difficultés, c'est la langue française parce que c'est très différent par rapport à ma langue originale.
Qui est donc l'arabe.
Oui,
mais... Il faut quand même le dire parce qu'il y a des...
Parce que si ma langue étrangère, la première langue étrangère, c'est anglais pour moi. Mm-hmm. Et j'ai commencé à étudier... la langue française depuis 2014, c'est difficile de s'intégrer facilement et rapidement. Donc c'est ma première mon problème principal.
Mais en dehors de ça, même avec ces problèmes de langue, est-ce que tu penses que les Français sont accueillants?
Enfin, mais j'ai pas compris.
Voilà.
Oui, je pense que c'est très très particulièrement à Lille, les gens étaient très chaleureux et très accueillis. Oui, je pense. Et l'ambiance, même à la résidence et à l'école ou à l'International Academy, était très, très bon et très chaleureux.
Ouais. Lay? La même question, l'accueil des Français.
Ah oui, je pense que les gens, les Français que je... Oui, je pense que les gens que j'ai vus tous les jours, c'est sympathique. Et pour moi, je me souviens du premier jour, je suis arrivé en France. Il me faut acheter le ticket pour aller au Lille. Et pour moi, pour juste appris français pour 5 mois, c'est un peu difficile pour moi de faire les autres comprendre ce que je voudrais faire. Et j'ai vu un très bon contrôleur ou je sais pas.
Un gentil contrôleur en tout cas. Ça existe donc, si, on vient de le dire.
Oui. Il m'a dit votre ticket, il y a quelques problèmes. Il m'a dirigé de l'information. Mm-hmm. Il m'a expliqué ce que je dois faire. Je pense que c'est la première personne Je pense que le français est très sympa.
Ah, bah tant mieux. Si on rencontre un contrôleur dans les transports et qu'on pense qu'il est sympa, je pense que là, c'est vraiment gagné. Là, ça fait vraiment plaisir, ça. Parce que bon, nous, français, par exemple, quand on voit arriver le contrôleur, on n'est pas sûr de le trouver si sympa que ça.
Parce qu'on n'avait pas votre ticket.
Mais voilà, c'est ça. Il faut avoir son ticket. Ali, tu avais une question, enfin il y en avait au moins 15 des questions, mais Ali voulait poser une question, et toujours proche du micro, une question à tous les intervenants.
Madame et messieurs, j'ai une question pour vous. La profession que vous exercez aujourd'hui est-elle en rapport avec ce que vous souhaitiez en venant en France ?
Alors, on va faire le tour de table dans l'autre sens. On va commencer par Rossella. La profession, c'était ça dont vous rêviez?
La profession que j'exerce, c'est la profession que je voulais faire, bien évidemment. Et j'ai pu la faire en France plus qu'en Italie, je dois dire, parce que je suis cinéaste et vidéaste. Mon travail, c'est une recherche artistique entre les cinémas documentaires et expérimentaux et l'art vidéo. Et du coup, je ne travaille pas pour la publicité, pas pour des émissions télé, je ne suis pas journaliste, j'ai un parcours totalement libre, disons.
Et atypique.
Et atypique. Et ce parcours en Italie, ça serait été plus compliqué parce qu'on a de moins en moins déjà d'investissement sur la culture. Hein. Ça fait au moins 20 ans que tout est coupé de plus en plus. Et aussi parce que... être artiste en Italie est encore perçu comme quelque chose d'assez extraordinaire. On n'a pas encore vraiment reconnu une fonction sociale à l'art. Ici en France, par exemple, je travaille parfois dans les écoles, dans des territoires, dans des associations. J'ai travaillé deux fois dans le cadre d'UCLEA, qui est le contrat local d'éducation artistique, hein, qui est très intéressant et qui me plaît énormément. Donc, c'est une fonction de l'artiste très sociale, très liée à une sorte de révélation de la beauté, de l'imagination, de l'imaginaire, sur tous les niveaux, en fait.
Pour tout le monde.
C'est lié aussi à l'éducation. Et en Italie, encore, il faut travailler pour reconnaître à l'art son importance sociale.
Très bien. Donc, voilà une artiste heureuse en France. Graham, la profession.
Merci Ali pour votre question que je trouve très très intéressante en fait. Moi aussi j'ai un parcours atypique, un petit peu moins atypique que celui de Rosella. Lorsque je suis venu en France en 2003, c'était parce que j'avais été nommé un poste d'enseignant chercheur en fait à Lille. Et donc, j'étais déjà enseignant-chercheur outre-Manche. Et donc, je suis resté enseignant-chercheur. Mais je trouve que je fais des choses... Il m'arrive de faire des choses beaucoup plus intéressantes, en fait, en France que ce que j'aurais fait, ce que j'avais déjà fait en Grande-Bretagne.
Et finalement, c'est comme la plongée. Vous faites des choses plus intéressantes en France.
Tout à fait. Voilà, ouais.
Alors, Ken, la profession.
Oui, pardon. Ben, vous savez, quand on est musicien, on n'a pas 36 solutions. J'ai commencé le violon à 3 ans, alors c'est pas en arrivant à 22 ans que j'allais changer de métier. Donc c'est sûr que... je me rappelle qu'en vous regardant, quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup d'amis qui étaient avec moi au conservatoire, qui étaient obligés de faire banquier, chauffeur de taxi, en plus en étant... compositeur ou oboïste, et en venant ici, je crois que j'étais un peu dans un idéal. Graham tout à l'heure disait on arrive ici, on commence une nouvelle vie, et puis tout d'un coup je me suis rendu compte qu'il fallait si je voulais fonder une famille, il faut un travail, il faut passer des concours, et puis ça a été très très difficile, mais bon, aux forces d'insister, j'ai eu vraiment de la chance ici d'entrer dans un orchestre, et je me rends compte quand même, je me suis pas rendu compte à quel point c'est enrichissant, et quelle chance que j'ai de travailler en fait.
Oui,
déjà de travailler et déjà ici en France,
et puis nous on a de la chance aussi de vous avoir à l'orchestre. Alors, Madad.
Alors, moi, bon, je pense que j'ai un parcours assez atypique parce que je suis arrivé en France pour faire le métier que mes parents, qu'elles m'avaient destiné. Après, j'ai bifurqué la médecine. Donc, après, j'ai bifurqué sur une profession que mes parents m'ont concédé de faire. Donc, ils voulaient bien que si je ne voulais pas faire médecine, alors il fallait quand même que je fasse un métier scientifique. Donc, j'ai enchaîné sur la biologie. Donc, j'ai fréquenté ici Cité Scientifique jusqu'à ce que je découvre moi-même la musique. Et j'ai trouvé que c'était ce que je devais faire depuis toujours. D'ailleurs, on s'est connu, Françoise, au conservatoire. Quand moi, je rentrais, Françoise, c'était
il y a bien longtemps.
En sortie en troisième cycle. Voilà. Donc, en très peu de temps, j'ai fait tout le parcours que les gens ils font depuis un long moment. Et donc, j'ai trouvé je devais toujours faire ça et que c'était, je pense, l'opportunité d'être parti de chez moi, d'être loin, d'avoir découvert plein de choses, d'être un peu livré à moi-même, de voir des points de vue différents, comme disait Rossella, la place de l'art et de la culture en France, je pense, est différente, je pense, je ne sais pas, au monde, je ne connais pas les autres, mais en fait, de mon pays d'origine, l'Iran. Et donc je me souviens que quand j'avais dit, je suis guitariste, quand j'avais dit à mes parents que j'ai passé le concours, je suis admis au conservatoire en guitare, mon père m'a demandé, et en piano, c'est pas possible. Donc pour lui, il voulait bien que je fasse de la musique, mais il fallait que je sois pianiste, mais pas guitariste. Voilà.
Alors je remarque en tout cas que tous, le fait de changer de pays vous a donné une liberté, celle de réaliser vos rêves finalement. Et ça, c'est peut-être ce qu'on va retenir de ce dialogue qu'on pourrait continuer bien longtemps, mais malheureusement le temps passe et l'horloge tourne. Et donc, il est bientôt 14h. Et vous écoutez Radio Campus sur le 106.6. Traverse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci donc à Isabelle Demeyer, Arnaud Vresch, Ali Moala, Late Song, Madame Moussazadeh, Rossella Piccino, Graham Roberts et Ken Sugita d'être passés dans Traverse. Les pauses musicales de cette émission étaient signées Ross Dali et Jordi Saval. Vous pouvez écouter Traverse pendant 2 mois sur Internet sur www.campuslille.com. A bientôt pour la prochaine édition de Traverse, le samedi 21 novembre. D'ici là, tous mes souhaits pour un beau week-end d'automne, malgré les événements de la nuit dernière. Et dans quelques instants, place au cinéma et à Christophe Dordain pour les aventuriers des salles obscures.
Mi sono